Bien. D'abord, la première chose, est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, le Seigneur avait montré des personnes qui étaient sous une grosse toile épaisse qui ressemble à une peau de bête. Et ces gens étaient comme étouffés et sur cette peau, cette toile, il était marqué honte, peur et rejet, angoisse. Et alors c'est quand même un peu fou parce que, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a prié pour nous-mêmes, d'accord ? Parce que la pensée c'était de se lever, de prendre l'épée, notre couteau et de fendre les choses. Et puis on a aussi prié pour des situations de personnes qui n'étaient pas là. Et moi je peux vous dire que quand le Saint-Esprit parle, lorsqu'il conduit les choses, quand il parle et quand il conduit quelque chose, lorsque nous mettons en pratique par la prière et la proclamation, la déclaration de la parole de Dieu, des choses arrivent. J'ai vu des situations cette semaine s'ouvrir sur les personnes. Alors je ne peux pas les dire. Les gens le diront un jour s'ils en ont envie. Mais combien c'est important parfois d'être à l'écoute de l'Esprit et d'entrer dans ce que le Saint-Esprit veut, là où il veut nous emmener. Et je vous invite vraiment à rechercher cela. Et puis j'ai un deuxième petit témoignage. Hier soir j'ai entendu une prédication dont on m'a envoyé le lien, qui invitait vraiment à recevoir Jésus. Pas juste dire « Jésus mon sauveur, je le déclare », mais de le laisser régner en nous. Et puis cette nuit, j'étais réveillé à 3h du matin. Ma nuit s'est finie à 3h du matin. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Le Seigneur était à la porte de ma maison. Il était là, il était en train de déclarer. J'avais ouvert, vous savez, quand vous venez chez moi, vous vous apercevez qu'il y a une petite fenêtre à la porte. D'ailleurs, les gens qui livrent les colis chez nous n'ont pas intérêt de passer la main. Parce que derrière, j'ai un petit Jack Russell qui n'aime pas les livreurs de colis. C'est marrant, mais il aboie sur eux. Et oh, c'est ma maison, quoi. Et le Seigneur m'a dit, jusqu'où me laisses-tu rentrer ? Et je pense que cette question nous est posée ce matin. Jusqu'où laissons-nous Jésus rentrer ? Si vous venez chez moi, vous visiterez le bas. Parfois, mon épouse, elle aime montrer sa décoration, donc elle fait monter les gens comme ça. Mais clairement, quand quelqu'un vient chez moi, il peut aller partout. Vous pouvez aussi utiliser les toilettes, vous pouvez utiliser plein de choses. Vous pouvez aller partout dans ma maison. Sauf dans le garage, il y a toujours le chien dans le garage. C'est son domaine. Et parfois même, nous avons des chiens qui aboient et qui empêchent le Seigneur d'entrer. Et je me suis dit, Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a encore des domaines, parce que le Seigneur m'a montré des domaines dans ma vie. Il m'a dit, Ella, pourquoi tu ne me laisses pas rentrer ? Ella, pourquoi tu ne me laisses pas rentrer ? Ella, pourquoi tu dis que la porte est entrée et tu mets le pied devant ? Comme si je ne pouvais pas rentrer. Réfléchissez à ça. Jusqu'où Jésus peut rentrer dans notre vie et régner dans notre vie. Vraiment, j'étais interpellé par cette vidéo. Et combien je veux vraiment laisser le Seigneur davantage rentrer dans ma vie. On a chanté tout à l'heure, alors que nous chantons « Seigneur, viens transformer nos vies ». Ouais. Alors j'ai quelque chose à vous dire qui ne va peut-être pas vous encourager. Ce n'est pas uniquement en chantant que ta vie est transformée. C'est lorsque tu laisses Jésus rentrer que ta vie est transformée. C'est-à-dire que tu peux venir ici et chanter alors que nous chantons « Seigneur, viens transformer nos vies ». Je ne dis pas que ce chant n'est pas bien, hein, mais c'est pour vous interpeller. Alors que nous chantons « Seigneur, viens transformer nos vies », je suis désolé de vous le dire, mais parfois tu peux ressortir d'ici et ta vie ne sera pas transformée. Parce que ce qui transforme la vie de quelqu'un, c'est quand Jésus vient régner dans sa vie, la vie de quelqu'un. C'est lorsqu'il a toute la place. Et les personnes qui grandissent et qui avancent avec le Seigneur, ce sont des personnes qui laissent Jésus entrer, qui laissent Jésus régner. Voilà, je suis désolé chérie. Ta déco est belle quand même. Priez pour moi, je vais avoir un moment difficile après le culte. Je vais vous parler de l'appel du disciple. Pourquoi je vous parle de l'appel du disciple ? Parce que il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre quand Dieu nous appelle. Quand Dieu prend quelqu'un, il va le chercher, il va le prendre, il l'appelle, il l'amène. Et il y a quelque chose qui doit changer dans la vie de quelqu'un quand Dieu nous appelle. Et il y a un homme qui s'appelait Saül, qui a été roi en Israël, et qui a été appelé à un moment donné pour devenir roi. Et en réalité, l'appel ressemble à l'appel que Dieu fait quand Jésus nous appelle. C'est exactement le même type d'appel. Et ce que je voudrais vous demander, c'est que vous puissiez réfléchir non pas à ces étapes, ces quatre étapes que je vais vous parler, qui pourraient parler de quelqu'un d'autre, mais qui vous concerne vous. Et je voudrais qu'on lise, alors je sais, c'est un peu lourd à lire. Vous êtes d'accord qu'on le lise ensemble ? Alors, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et lui dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Aujourd'hui, j'ai souligné aujourd'hui pour marquer chaque étape, d'accord ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Alors, je ne le prononce pas parce que après m'avoir quitté, tu trouveras... Non, voilà. De là... Donc, deuxième étape, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, ils te donneront deux pains et tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras, troisième étape, tu arriveras à Gibeah Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi, avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Pardon. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibeah, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il est prophétisé avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? Je vous raconte brièvement comment... Alors, c'est parfois, on a des situations dans nos vies qui nous amènent à être appelé par Dieu. C'est bizarre comment ça se passe pour Saül. Parce que les ânesses du père de Saül se sont égarées. Et puis, il envoie son fils et un de ses serviteurs pour aller les chercher. Et ils ne trouvent pas. Ils disent, on ne trouve pas dans la contrée les ânesses de mon père. Alors le serviteur lui dit, il y a un prophète là dans le coin, dans ce pays, qui saura nous diriger vers ces ânesses. Et ils vont donc pour aller rejoindre Samuel. Et de son côté, alors que Samuel est en train de faire son travail de sacrificateur, l'Éternel lui dit, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme de la tribu de Benjamin et tu vas l'oindre pour chef de mon peuple et il sauvera mon peuple des Philistins. » C'est bizarre quand même parce que parfois on a des circonstances négatives qui nous poussent à rencontrer le Seigneur. Avez-vous vu ça ? Il y a des gens parfois qui disent, « Oh moi, vous rencontrez j'ai pas besoin de rencontrer Dieu quand ça ne va pas bien. Parce que c'est un signe de faiblesse. Mais au contraire, parfois, les situations tordues, difficiles dans notre vie, nous amènent à rencontrer Dieu dans un moment précis de notre vie. Et ce n'est pas un signe de faiblesse que de rencontrer le Seigneur quand ça n'a pas été dans ta vie. Parce que là, il y a une porte ouverte. Parce que s'ils avaient retrouvé les ânesses, Il n'aurait pas dit, le serviteur n'aurait pas dit, tiens ici, il y a un prophète. Et il serait retourné avec les ânesses. Mais parfois, les circonstances difficiles peuvent nous amener à rencontrer le Seigneur. En tout cas, découvrir ce que Dieu veut pour nous. Alors, Samuel rencontre Saül. Il prend une fiole d'huile. L'huile représente, si je puis dire, l'onction. Ça représente l'appel. Ça représente ce que Dieu veut faire à travers Saül. Il la répand sur la tête de Saül. Et regardez ce qu'il fait. Déjà, Samuel représente ce qu'est Dieu en réalité. La personne divine, la personne de Dieu. Il ne fait pas simplement dire, tiens, voilà, voilà de l'huile, tu vas être roi. Que fait-il ? Il prend Saül et il commence à le prendre et à l'embrasser. Parce que lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas juste dans un fonctionnement. Il nous appelle dans une relation. Alors, c'est vrai que nous devons trouver chacun notre place. Mais regardez à quel point c'est comment on peut appeler ça, chérie, les trucs là ? Les supports de lampe là sont liés ensemble. Il amène une personne à être en communion avec une autre. Il l'embrasse, il dit « Voilà maintenant celui qui est oint pour chef de mon peuple. » Et là, il va se passer quelque chose que vous devez retenir, que nous devons tous retenir. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas dit « Vas-y, mets-toi sur le trône. Règne maintenant. » Il va l'amener vers quatre étapes indispensables. Si on ne passe pas l'une de ces étapes, si on en oublie une, mes frères et mes sœurs, nous nous trompons et nous allons manquer notre appel. Nous allons manquer notre vie de disciple et nous n'allons pas réussir. Nous risquons même à un moment donné d'être rejetés. Il y a trois étapes nécessaires pour entrer pleinement dans le discipulat. Je ne sais pas si c'est discipulat ou discipola. Puis là, c'est bon. Hein. Il y a une étape indispensable aussi pour réussir. Donc, trois étapes pour entrer pleinement dans la vie de disciple et une pour la réussir. Si on ne fait pas ces quatre étapes, si on ne les vit pas concrètement, nous manquons quelque chose. Et d'ailleurs, on le verra, Saül, lui, il a vécu les trois premières, mais il a oublié la dernière. Et que s'est-il passé ? Il a été disqualifié. Oui, il a été rejeté en tant que roi. La première, c'est la mort. Alors vous pouvez partir, hein, parce qu'on ne va pas vous tuer, c'est pas ça. Mais après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. La ville de Tsel, machin, près de Bethléem, où Rachel, femme de Jacob, en mettant au monde Benjamin, elle en est morte. Et quand Dieu envoie Saül là-bas, c'est pour signifier qu'être disciple, c'est avant tout donner sa vie comme Christ l'a donnée en rançon pour beaucoup. Ça nous parle d'humilité, c'est-à-dire que quand tu t'attaches au lustre, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu, tu vis pour le corps. Or, souvent, dans notre compréhension de notre appel, nous croyons que Dieu veut nous élever à travers cet appel. Alors qu'en réalité, et j'aime beaucoup cette image, plus tu es responsable, plus tu portes, plus le poids est lourd, plus c'est dur pour ta vie. Et là, tu dois comprendre que lorsque Dieu t'appelle, c'est pour porter l'autre, c'est pour aider l'autre. Ce n'est pas pour t'épanouir toi, mais c'est pour que tu meures afin l'autre vive. C'est pour que tu sois toi, pourquoi pas, prêt à abandonner des choses pour que l'autre puisse de plus en plus être tout près du cœur du Père. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, et que je me pose souvent, jusqu'où suis-je prêt à donner ma vie ? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour que l'autre, la personne qui est à côté de toi, la personne qui vit avec toi dans le corps, puisse être élevée ? et se rapprocher davantage de Dieu. C'est une lutte incessante dans la vie des gens, ça. Une lutte incessante, pourquoi ? Parce que ce que nous voulons, c'est nous. C'est notre épanouissement, c'est notre confort. Et souvent, je me pose la question, je me dis, moi, mais jusqu'à où suis-je prêt à abandonner encore une soirée ? Jusqu'à où suis-je prêt pour prendre du temps avec l'autre, quand l'autre est dans la difficulté ? Jusqu'où suis-je prêt à abandonner un certain confort pour vivre une véritable communion d'église ? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je pense que le message est clair. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas d'autre message dans l'appel de Jésus. L'appel que Samuel lance de la part de l'Éternel à Saül est le même que Jésus a fait auprès de ses disciples et c'est le même qu'il fait à l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es prêt à te charger de la croix ? Qu'est-ce qui doit mourir en toi ? Ta gloire personnelle ? Ton besoin de reconnaissance, tes propres intérêts, ton passé, et puis tes droits aussi. Parce que souvent on dit « j'ai le droit d'eux ». Vous avez déjà remarqué ça ? Moi j'ai le droit de ça. Mais on ne donne jamais, on n'exprime jamais nos devoirs. Et puis, la ville où Saül est envoyé, elle est à la frontière. Et moi, à la frontière entre deux mondes, deux provinces. Et je me dis, moi, que souvent la frontière entre ma capacité à renoncer à moi-même, ma capacité à donner tout pour le Seigneur, tout pour Dieu, la frontière entre ce que je donne et mon besoin d'être reconnu, elle est des fois très fine, non ? Et souvent, quand je fais des choses, des fois, après coup, je me dis, est-ce que je ne me suis pas, moi, glorifié à travers ça ? Est-ce que je n'ai pas retiré une gloire personnelle ? Alors qu'en réalité, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je réussis dans le corps de Christ, c'est à lui que revient ma gloire. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. Je crois que Saül, peut-être, il n'a pas compris ça. Parce qu'il était appelé à devenir l'homme qui allait délivrer le peuple. Et sa vie, après, elle n'a pas forcément représenté ça. Tu sais, quand Dieu te donne un appel, un don, un ministère, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour servir. Et plus tu seras capable de donner ta vie, et plus tu seras capable de réussir. La question que je me pose, moi, je vous le dis honnêtement, qu'est-ce que je suis prêt encore à donner au Seigneur ce matin ? Que suis-je prêt encore à lâcher prise pour donner encore plus ? Car celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, qu'est-ce qu'il aura ? Il vivra. Vous savez, il y a un enjeu dans les mois, les années qui vont venir pour l'Église, un défi à relever. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est entrée dans un système qui est un système c'est l'esprit de ce monde qui est rentré. Et l'Église, dans l'Église, je dois retrouver ça pour moi. L'Église doit faire ça pour moi. Je dois retrouver des hommes et des femmes qui prennent soin de moi. C'est tout est centré sur le moi. Et on en oublie que lui, il a tout fait le contraire en venant sur la terre. Il s'est donné. Il n'a pas regardé sa gloire, sa position. C'est lui qui porte tout. Et pourtant, il est venu sur la terre. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Le deuxième, donc ça, la première étape. La deuxième étape, c'est l'équipement. De là, tu iras plus loin. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est pas la peine d'aller plus loin. Si vous n'êtes pas passé par la mort, par la croix, si vous n'êtes pas passé par la mort à vous-même, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Le problème, c'est quand on oublie une chose aujourd'hui, on reçoit les gens, on dit « il faut que tu te formes au ministère, il faut que tu te formes pour devenir disciple ». Non, si tu n'es pas passé par la croix, ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. Il ne sert à rien de chercher à te former si tu n'es pas prêt à donner ta vie. C'est pas la peine. Tu vas biaiser l'appel de Dieu sur ta vie. Tu comprends? Parce que tu as peut-être porté des fruits, tu vas prendre plein de choses, tu vas accumuler des choses. Mais ce que tu as reçu de la part de Dieu ne servira à rien parce que tu ne le mettras pas au service des autres. Tu continueras à le mettre au service de ta gloire personnelle et de ton moi. De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chaînes de Tabor. Tabor, c'est à 80 km au nord. Et c'est très élevé, c'est une partie haute, si je veux le dire, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel. Ces hommes, c'est des hommes de communion avec l'Éternel. Bethel, la maison de l'Éternel, ça veut dire. La maison de Dieu, Bethel. Et ces hommes se dirigent et ils recherchent la maison de Dieu. Ils recherchent à ce que Christ soit en eux. Ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, vous comprenez ? Ce sont des hommes qui sont en relation avec Dieu. Et Dieu conduit souvent des disciples. Et ce que Dieu veut, d'abord, c'est que les responsables, ceux qui nourrissent le peuple, soient des hommes de communion avec l'Éternel. Ceux qui habitent dans la maison de l'Éternel. Des personnes qui vivent en relation avec l'Éternel. Et il dit, tu vas aller vers ces hommes. Et l'un aura trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Là encore, c'est pas juste. Et je parle aux responsables. Je parle aux responsables de Paul. Je parle aux responsables des petits groupes, des groupes de maison. C'est pas juste recevoir quelqu'un. C'est pas juste donner du pain. Il dit comment tu te portes, mon gars. Comment vas-tu? Il y a un travail pastoral. Il va faire 80 kilomètres sous le soleil peut-être, fatigué. Il dit, comment tu te portes? Comment vas-tu? Et là encore, on a toute la dimension de la relation dans le corps. Parce que l'Église n'est pas un fonctionnement comme une entreprise. L'Église n'est pas une association. L'Église est un corps où les uns sont liés avec les autres. Et c'est normal. Ce matin, mon cerveau... Hier, j'ai fait un peu de bricolage. Ce matin, mon cerveau a demandé à mon dos « Comment tu te portes, dos ?» Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Pour servir, pour combattre et remporter des victoires, il faut au préalable être équipé, être nourri, fortifié et avoir une vue beaucoup plus élevé du royaume. N'oubliez pas que Dieu l'amène rencontrer des hommes de Dieu qui vont le nourrir sur un lieu élevé. Et depuis ses chaînes, il pouvait voir tout en bas. Et moi, ça m'interpelle. Parce que moi, ce que je recherche aujourd'hui, ce sont des hommes comme ça. On m'a souvent reproché peut-être mes relations avec... certains mouvements apostoliques ou peu importe. Mais j'ai toujours recherché des hommes qui avaient une vue plus élevée. Parce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient la voie. Ils connaissaient et ils savaient là où m'amener. Et me fortifier pour que je chope, si je veux dire, une vue plus élevée. Cherchez des personnes comme ça autour de vous. Peut-être que vous ne trouvez pas ça à l'église. Pas grave, allez ailleurs, mais cherchez des hommes qui cherchent le royaume, qui vivent le royaume, qui ont la pensée du royaume, qui veulent le royaume et qui vous expliqueront ce qu'est le royaume. Recherchez ces hommes-là. Et ce n'est pas uniquement en venant au culte le dimanche matin que tu vivras ça. Je suis désolé de vous le dire, mais là, il a pris du temps avec eux. Je dis, on ne mange pas trois chevreaux, autant de pain. Et s'il avait bu le vin d'un coup, il serait redescendu en titubant. Même si on peut s'imaginer qu'à l'époque, le vin n'était pas si fort. Vous comprenez, il a pris le temps avec ces hommes. Et ces hommes ont pris soin de lui. Il y a une relation. Et tu ne peux pas entrer pleinement dans ton appel si tu n'es pas mort à toi-même et si tu n'es pas équipé. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et on va le voir dans l'étape suivante. Mais Dieu prend des solitaires pour les ramener dans une famille. Il prend ce qui est solitaire en toi, ce qui est seul, pour te ramener dans une famille. Gibea Elohim, c'est la colline. Gibea, c'est colline. Elohim, c'est le nom de Dieu au pluriel. Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, Gibea Elohim, c'est la colline où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent. Et là, de là, après des chaînes de Tabor, là où il aura été nourri, il aura pris des forces, regardez ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là. Il l'envoie vers des hommes qui se tiennent, là encore, là où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tient. Vendredi soir, nous sommes allés dans un séminaire prophétique et à Denain. Et vous savez ce que disait Hervé Guillois, le prophète ? Il disait, là où Dieu se tient, le lieu est redoutable. Là où Dieu se tient, là, il se passe des choses. Là où Dieu se tient, il habite. Ça ne peut pas être comme ailleurs. Et nous devons nous poser nos questions, une question en tant que disciple. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Qu'est-ce que je vis avec le Seigneur ? Qu'est-ce que je vois dans ma propre vie ? Parce que peut-être que Dieu ne se tient pas si tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Je sais, je vous ébranle peut-être, mais c'est une question fondamentale que nous devons nous poser. Moi, quand je prie qu'il ne se passe rien, je pose la question, que se passe-t-il, Seigneur ? Il ne faut pas jouer les gens, vous savez, il y a des gens qui ont des œillères comme ça, qui se mettent des choses devant les yeux et qui continuent à fonctionner. Il est dit que, et après, on entend un truc, ah ben Dieu est là, ben, les gens y vont. Et puis les gens disent, ah ben Dieu est là, ben les gens vont là-bas. Et ils sont emportés à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas fondés sur le roc. Et là, il leur dit, il y a une garnison de Philistins. C'est quand même étonnant, dans le même endroit où le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent, il y a une garnison de Philistins, des ennemis de l'Éternel, du peuple d'Israël. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ? Ouais ? Moi, je ne trouve pas ça bizarre. Parce qu'au milieu de l'adversité, Dieu peut agir. Au milieu de des difficultés, Dieu agit. Parce que ce qui est important, c'est pas que les Philistins se tiennent. Ce qui est important, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent là. Et ce qui est important de connaître et de recevoir, c'est est-ce que le Père, le Fils et l'Esprit ont la possibilité de se tenir là, Est-ce que c'est Gibea Elohim ici? Est-ce que c'est la colline où se tient l'Éternel? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis cet homme ou cette femme-là? Là, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe. Là encore, on s'aperçoit que la dimension prophétique est développée. Elle peut vraiment faire une œuvre puissante par la louange et l'adoration, par la musique. Eh oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Vous voyez l'environnement comme il est important. C'est-à-dire que la responsabilité de chaque prophète était d'être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Sa responsabilité était d'adorer l'Éternel et de proclamer qui était l'Éternel au milieu d'un peuple, d'une ville qui était tenue par les Philistins. Je le répète, la responsabilité des prophètes était de créer un environnement spirituel. Ils étaient en train de créer une atmosphère spirituelle. La question que je me pose, moi, en tant que communauté, qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils entrent ici? La première des choses que je leur pose quand il y a des nouvelles personnes, c'est « qu'est-ce que tu trouves ici ?» Je ne dis pas « est-ce que tu as passé à mon culte ?» Ou « est-ce que le message était bon ?» Non ! Qu'est-ce que tu trouves ici ? Quel est l'environnement ? Et souvenez-vous, Martin Tsongo, un ami pasteur, qu'est-ce qu'il a dit une fois lors d'un enseignement là où nous étions là-bas ? Il a dit, ce qui est surtout important pour une église, c'est de créer l'environnement, de créer l'atmosphère, de créer la culture de cette église, afin que les gens, lorsqu'ils viennent et qu'ils entrent ici, sont baignés dans cette culture, sont baignés dans l'atmosphère. Et les gens n'ont plus, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Je vais raconter deux témoignages. Le premier, Martin, qui est dans une église où il y a beaucoup d'Africains. Et Martin a dit, dans notre église, on ne parle pas Ingala. C'est Ingala, hein, Robert, c'est ça. On chante que des chants français parce qu'on est dans un environnement français. On a fait ce choix-là. Juste un petit exemple comme ça. Et un beau jour, il y a des personnes qui viennent et qui parlent en Ingala en s'adressant au pasteur. Alors, pour ne pas choquer, il répond en français. Et puis au bout de 2 semaines, les gens parlaient français. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens de l'église disaient, tu sais, si on ne parle pas en Ingala, il faut parler en français. Mais là, j'ai entendu un témoignage, moi, vendredi soir, qui était encore puissant. Il disait, lorsqu'ils ont implanté, Hervé Guillois a implanté une église à Montpellier, il disait que, non, c'est un pasteur, il racontait l'histoire d'un pasteur qui, lorsque la présence de Dieu se tenait d'une manière tellement forte, présente, que lorsque les gens rentraient, ils n'avaient pas le temps de dire « ouf », les gens se mettaient à genoux, ils confessaient leurs péchés et ils se repentaient. Pourquoi l'environnement? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'environnement et la sainteté de Dieu étaient tellement perfectibles qu'on n'avait même plus besoin de faire quoi que ce soit. C'était Dieu qui faisait les choses. Et aujourd'hui, il faut faire attention que nous ne fabriquions pas un environnement surfait, vous comprenez, une ambiance, mais que nous recherchions avant tout la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui change les choses. C'est la culture du royaume qui change les choses. C'est la culture qui nous amène à être transformés. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu fait ça au milieu de ses ennemis. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit souvent, on cherche les ennemis. Des fois, on peut peut-être un peu trop spiritualiser, je ne sais pas. Mais on dit, l'ennemi là. Non. Oui, l'ennemi est là. Bien sûr. Je sais qu'alors que je suis en train de prêcher, je sais qu'il y a des démons qui regardent et qui écoutent. Bien sûr. Je sais qu'ils feront tout pour me faire tomber. Oui. Mais ce qui est important, c'est que Gibea Elohim soit là. Ce qui est important, c'est ça, parce que ça, c'est bien plus fort que ces puissances. Et comment nous change-t-il? En nous remplissant de l'esprit. Là encore, c'est pas une auto. Vous connaissez le sketch de Danny Boone qui dit « Je vais bien, tout va bien », qui s'auto « Je vais changer, changer ». Non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui change. Et puis, il y a une quatrième étape pour réussir. Puis, tu descendras. Alors, je répète, la première, c'est la mort. La deuxième, l'équipement. La troisième, un cœur nouveau, une nouvelle personne remplie du Saint-Esprit. Et la quatrième, c'est tu descends et tu obéis. Tu iras à Guigal et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices, actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Jésus nous a enseigné, il a dit que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Et parfois, moi, j'ai vécu ces 3 premières étapes, je crois, à différentes périodes de ma vie, parce qu'on ne le vit pas toutes d'un coup. C'est un programme de toute une vie, de passer par la mort. On apprend à mourir, si je puis dire. Je pense que j'ai été équipé et je continue à m'équiper. Je pense que j'ai des périodes dans ma vie où j'étais plus ou moins rempli de l'esprit, et je vous l'accorde. Et je vous le confesse que parfois, je me suis mis derrière cette chair et je n'étais pas très rempli. Et puis il y a des moments où ça débordait. Et puis là, j'en reviens un peu à cette vision de cette nuit, quand j'ai vu le Seigneur devant ma maison et qui m'a dit « Et là, Bruno, est-ce que je peux rentrer maintenant ?» Et je vous avoue franchement qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai manqué cette étape pour réussir, où je suis passé à côté de choses importantes. Mais je ne pense pas être meilleur que vous. Et je pense qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez sans doute, je ne dis pas vous êtes peut-être mieux que moi, hein, vous avez désobéi. Mais tu ne peux pas réussir. Tu auras beau être passé par la croix, tu auras beau avoir été équipé, tu auras beau être rempli du Saint-Esprit, si tu n'obéis pas, tout ça ne sert à rien. Et Saül, ça lui a été fatal, vous le savez, hein. Il n'a pas attendu Samuel pour offrir des sacrifices. Et il a été disqualifié. Je vous laisse juste avec cette pensée sur votre cœur et peut-être une réflexion. Donc, puis-je perdre mon salut si je n'obéis pas? Je ne répondrai pas. Vous la posez cette semaine, vous la posez au Seigneur. Est-ce que je peux être disqualifié par désobéissance? Là, je remets peut-être des choses en place. Ou peut-être que j'effrite peut-être votre conception. En tout état de cause, un jour ou l'autre, on devra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il a dit, j'ai entendu la vidéo hier, on se retrouvera devant lui, puis on dira, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas? Et Jésus dira, je ne vous connais pas. Il y a bien quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre ce jour-là. C'est que Jésus vienne me dire, je ne te connais pas, Bruno. Parce que tu commets l'iniquité. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la perfection. Vous savez, des fois, on se dit qu'il faut être parfait pour entrer dans le... Non. Mais on sera jugé en fonction de ce que nous aurons compris, de ce que nous aurons mis en application dans notre vie. Y a-t-il des domaines qui doivent passer de la désobéissance à l'obéissance? Y a-t-il des domaines où Jésus doit entrer? Il ne forcera pas la porte, mais doit-il avoir une porte ouverte devant lui? Est-ce que tu mets encore le pied Est-ce qu'il y a encore un Jack Russell devant, à l'intérieur de ta maison, qui aboie lorsque Jésus s'approche? Est-ce qu'il y a encore des domaines de ta vie qui ne sont pas encore soumis à Jésus? J'en ai, je vous le confesse, il y a encore des choses dans ma vie qui doivent changer. Mais dès lors que je prends conscience de ça, la première des choses que je dois faire, c'est de lui demander pardon. Pardonne-moi, Jésus, parce que aujourd'hui, je voudrais vraiment t'ouvrir la porte dans tel domaine de ma vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? 4 étapes pour entrer et réussir. Il faut accepter de mourir. Il faut faire des efforts pour s'équiper et être équipé. Il faut être rempli de l'Esprit. Il faut chercher l'environnement où se trouve le Saint-Esprit, où agit le Saint-Esprit. Il faut obéir dans toutes ses voies. Et si on oublie ça, c'est comme pour les automaticiens qui construisent des programmes, c'est comme un switch obligatoire. Vous voyez, étape 1, allié, je passe à étape 2. La tête 2 est liée, je passe à l'étape 3. Ne pense pas être capable d'obéir si tu n'es pas capable de mourir. Parce que l'obéissance, c'est quelque chose qui nécessite automatiquement un abandon. Obéir, c'est faire des choix. Et parfois, le Seigneur nous demande de faire des choix qui vont à l'encontre de notre propre volonté, de notre moi. Voilà ce que je voulais vous confier. J'espère que je vous ai bien secoué. Parce que moi, j'étais secoué par ça. Et si à un moment dans ma vie, vous avez vu que je n'étais pas mort à moi, je vous demande pardon. Et si à un moment dans ma vie, vous avez vu que je n'étais pas enseignable, je vous demande pardon. Et si à un moment dans ma vie, vous avez vu que j'ai fait les choses sans être rempli de l'Esprit, je vous demande pardon. Et si vous, dans ma vie, vous avez vu des moments où j'ai désobéi, je vous demande pardon, sincèrement pardon. Parce que moi, je n'ai pas envie de me retrouver devant le Seigneur et qu'il me dise, je ne le connais pas. J'ai trop peur de cela, si vous saviez. Que Dieu vous bénisse.